9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est le sujet dont les Français trouvent qu'on ne parle pas assez dans les médias, un sujet qui concerne et inquiète toutes les familles. Hier soir sur M6, le magazine Zone Interdite diffusait une enquête choc sur la prise en charge des personnes âgées et ça fait froid dans le dos. Maltraitance, dénutrition, auxiliaires de santé débordés, un an après la sortie des Fossoyeurs, le livre du journaliste Victor Castanet qui avait fait éclater le scandale Orpea. Les choses n'ont pas vraiment changé, ni chez Orpea, ni vraiment ailleurs. Dans l'ensemble du secteur, ce n'est pas mieux, mais est-ce une fatalité? L'enquête donne également quelques raisons d'espérer. Pour en parler avec nous, Géraldine Levasseur et Laure Herpeux, respectivement productrice et réalisatrice de cette série de ce documentaire Défi et scandale de la dépendance, diffusé hier sur M6. Alors, en général, on ne parle pas ici des programmes déjà diffusés, c'est même une première, sauf que là, le sujet est incontournable et vous ne pouviez pas en parler pour des raisons juridiques. L'enquête crée l'actu et relance le scandale. On peut évidemment voir l'émission sur 6play. Pardon de ce lancement un petit peu long. Laure Herpeux, les Français disent que c'est le sujet dont on ne parle pas assez dans les médias. Est-ce que vous avez suivi, je vous regarde Laure, mais je peux aussi poser la même question à Géraldine Levasseur, vous avez vu les audiences?
Écoutez, oui, rapidement, mais on est content,
c'est-à-dire 1,97 millions, on va dire 2 millions, 9,9% de l'ensemble du public, on va dire 10% du public. Vous êtes quatrième, mais c'est quand même un très bon score.
Ben, ça veut dire que les gens sont prêts à affronter des questions difficiles, des documentaires également difficiles, et ça veut dire que les gens sont en quête d'informations et ont besoin d'être informés sur ces questions fondamentales.
Quelle réaction avez-vous eu depuis hier soir? On a noté ce tweet de Ségolène Royal, je la cite, témoignage glaçant. La privatisation des métiers et du soin est une horreur. D'autres réactions que vous avez reçues, Laure Herpeux?
Oui, y a pas mal de réactions sur Twitter, notamment des gens qui s'indignent des conditions de traitement de nos aînés et des personnes âgées en France. Donc ça a pas mal buzzé sur les réseaux. Ouais.
Et puis il y a eu des réactions aussi, il y avait un bug de son.
Alors,
indépendant de votre volonté, mais on va le dire, il y a un petit problème de son.
Écoutez, oui, on est en train d'essayer, M6 est en train de mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé au niveau de la régie, on n'a pas compris.
Parce qu'évidemment, le son, quand vous étiez en régie, il était parfait. Quand vous avez fait le montage, oui. Le son est parfait. Alors, au départ de votre enquête, Laure Herpeux, ça ne concernait pas particulièrement Orpea. Sauf qu'en novembre dernier, le nouveau directeur général, Laurent Guillot, convoque la presse pour faire passer un message.
Orpea change pour vous. Avec vous et pour vous. Depuis le mois de septembre, nous embauchons 800 personnes par mois.
Et là, du coup, Laure Herpeux, vous dites, tiens, on va aller voir comment ça se passe sur le terrain. Est-ce que ces mots se traduisent en actes?
Oui, exactement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est parti du constat de base que 9 Français sur 10 veulent vieillir et finir leur jour à la maison. Donc l'enquête est vraiment partie du domicile. Comment ça se passe à la maison? On a beaucoup entendu parler des scandales différents dans les différents EHPAD, publics comme privés d'ailleurs. Et on s'est dit, c'est quoi le constat à la maison? Et en fait, force est de constater que sur 1,3 million de personnes dépendantes, il y en a 600 000 qui sont quand même en EHPAD. Donc on a aussi creusé cette thématique-là. Et c'est vrai que quand Laurent Guillot, donc le nouveau directeur d'Orpea, s'est engagé avec ses promesses de changement, on s'est demandé, concrètement, comment ça se passe?
Et ça va même plus loin, puisque Orpea vous ouvre les portes d'un EHPAD qui a l'air absolument formidable. La directrice est dévouée, il y a un petit poulailler, les résidents ont l'air heureux. Ils disent même qu'on en a peut-être un peu trop fait sur le scandale Orpea. Ce sont les résidents qui disent ça. Et les après-midi se terminent en chanson extrait.
Alors on va chanter Vive le vent.
Si on avait su qu'on allait chanter, on aurait pris nos lunettes.
La 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 la.
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver.
Ici, la vie semble douce.
Et bonne année, grand-mère.
Mais là, vous vous demandez si la com d'Orpea n'est pas un peu en train de vous balader. C'était un EHPAD témoin?
Alors, c'est leur EHPAD modèle, hein, clairement. Ouais. C'est un endroit où il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu d'enquête dans cet EHPAD. Tout se passe bien. Et d'ailleurs, la directrice est une personne vraiment engagée aux petits soins avec ses résidents comme ses employés. Donc, ils nous ont ouvert les portes de cet EHPAD-là à un certain horaire, avec la communication derrière nous. Et ils avaient choisi les personnes à qui on pouvait parler, en fait. Donc, c'était une ouverture.
D'accord, je repose ma question. Aviez-vous l'impression de vous faire balader?
Oui, un peu. Un peu.
Géraldine Levasseur, vous évoquez une véritable omerta du milieu. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce si difficile de recueillir des témoignages, notamment un an après ce qui aurait dû être une sorte d'opération, entre guillemets, portes ouvertes?
C'est-à-dire que les gens ont la trouille, les soignants ont peur de perdre leur boulot, et puis il faut savoir également que c'est des gens qui aiment leur travail, qui ont choisi ce métier. Alors c'est des petits boulots, c'est des gens qui sont invisibles, qu'on voit pas, qui ont des petits salaires, et ils n'ont pas envie de dire de mal de leurs employeurs tout en sachant eux-mêmes qu'ils sont maltraitants, et c'est des gens qui gagnent le SMIC, hein, c'est-à-dire d'abord ils ont peur entre eux de parler, ils ont peur d'être reconnus. Donc Laure, jusqu'au samedi, c'est-à-dire jusqu'à avant-hier, a reçu des textos de gens qui lui disaient même si je suis floutée, même si ma voix est pitchée, je ne veux plus passer à la télé, c'est-à-dire de gens qui avaient vraiment, vraiment peur.
Mmh. Qu'avez-vous fait ? Vous avez coupé les séquences ou comme ils étaient bien floutés, non, et bien pitchés comme vous dites, vous êtes allés quand même ?
Ouais, on y allait quand même parce qu'en fait on est parti du constat à la base. En fait, c'était à chaque fois les gens reculaient, c'est-à-dire qu'au départ, les gens étaient vraiment volontaires pour parler, et puis au fur et à mesure du temps, il fallait flouter, changer la voix, et en fait, on s'est dit, bon, il faut les protéger. Clairement, il y a un vrai souci dans ce secteur-là, ou une vraie crainte, une vraie peur, et même des gens qui ont quitté des établissements, c'est-à-dire qui ne travaillent plus là-bas, ont peur de représailles, ont peur d'avoir des procès, ont peur d'être attaqués pour diffamation. Et donc nous, on est parti du postulat de se dire, on va les protéger, et c'est normal, pour protéger leur parole, pour pouvoir la libérer, justement.
Donc, il y a beaucoup de séquences très fortes, je m'adresse à toutes les deux, que vous avez dû couper.
Claire a dû, Laure, pardon, a dû couper des témoignages. Excuse-moi, Laure a dû couper des témoignages de personnel soignant, effectivement, qui était très insistant dès le début du doc. Voilà, mais dans l'ensemble, on a diffusé ce qu'on souhaitait diffuser.
Alors, Laure, vous êtes entrée en contact avec Caroline et Catherine Hyper, fille et petite fille de Jean. Jean a 92 ans. Il vit dans un autre EHPAD du réseau Orpea. Là, le tableau est moins idyllique que l'EHPAD témoin, si j'ose dire. Quelle est la situation ?
Quelle est la situation aujourd'hui ou
quand vous avez filmé, racontez ce que vous avez vu.
Donc en fait,
là où se trouve Jean.
Ouais. Donc en fait, quand on les rencontre, Jean est chez Orpea depuis 8 mois. Mmh. Et en fait, sa fille et sa petite fille se posent la question de comment on peut perdre 30 kilos en 8 mois. En fait, quand Jean rentre chez Orpea, donc en novembre 2021, il est valide, il marche, il a pas de protection, il mange normalement, il pèse 80 kilos. Et en fait, en 8 mois, sa famille, ses proches l'ont vu glisser, une descente aux enfers, sans explication. C'est-à-dire que Catherine, Caroline...
Ça, ouais, vous dites qu'il a perdu ses dents. Il a perdu la plupart de ses dents. Ouais. Il était joyeux et là, il parle quasiment plus.
Il est devenu mutique, il parle plus, non. Et en fait, elle s'interroge, parce que ça a été une des réactions pas mal sur les réseaux, en se disant, pourquoi est-ce qu'ils la sortent pas? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé? En fait, elles n'avaient pas le choix de le laisser là parce qu'elles cherchaient des places ailleurs et les autres EHPAD du coin étaient tous pleins. Et l'autre question, c'était pourquoi est-ce qu'elles n'alertent pas ? Et en fait, elles ont alerté. Elles ont envoyé des dizaines de mails à la directrice, au personnel soignant, et elles n'avaient jamais de réponse, jamais d'explication.
Là, vous avez fait la seule chose qui était possible en tant que journaliste. Vous avez planqué des caméras. Pour quel résultat ? Réponse juste après ça. Culture Média revient à tout.
Philippe Vandel.
On parle de ce doc passé hier soir, dimanche, sur M6, dans la case Zone Interdite, Défis et Scandales de la Dépendance. On est avec Géraldine Levasseur, la productrice, Laure Herpeu, la réalisatrice. On parlait de Jean. Jean, il est en EHPAD, je retrouve son âge, 92 ans. Pour savoir ce qui se passe, sa famille s'inquiète. Il a perdu 30 kilos en 8 mois, il a perdu une partie de ses dents. Lui qui était joyeux est devenu mutique. Il a aussi des ecchymoses parce qu'il multiplie les chutes. Que s'est-il passé ? Vous décidez d'installer une caméra cachée dans sa chambre. Qu'avez-vous découvert ?
Ouais, donc en accord avec ses proches et avec lui-même d'ailleurs, en gros on met cette caméra en face de lui pour voir qu'est-ce qui se passe. Et on a placé la caméra donc pendant 4 jours, parce qu'en fait dans la narration il sort après de l'EHPAD, donc il a quitté Orpea. Et en 4 jours on s'est rendu compte que on le fait manger en 4 minutes. Donc ça a été le premier choc.
Entrée plat dessert.
Entrée plat et 2 desserts, ouais. En 4 minutes. Et en fait, on l'entend s'étouffer, on entend que... Et en fait, ce que vous ne voyez pas à l'image, Jean est capable de manger tout seul. Et là, on le nourrit aussi. Et ça fait partie du glissement. C'est aussi une des problématiques. On le gave, en fait. Mmh. On le gave en 4 minutes, alors qu'il pourrait manger tranquillement tout seul. On constate aussi qu'il est capable de passer 19 heures dans son lit. C'est-à-dire qu'on couche à 16 heures. Il va ressortir de son lit le lendemain à partir de 11 heures enfin, le lendemain matin à 11 heures. Ce qu'on a réalisé aussi, donc c'est des gestes brusques, des toilettes faites brusquement. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment quand on a son proche en EHPAD. Donc les protections sont changées la nuit. Et quand elles sont changées, les soignants, donc c'est très régulier, je l'ai constaté dans d'autres endroits, hein, au lieu de mettre une petite lumière et de réveiller la personne doucement, ils allument la lumière pleine balle et en fait, on est réveillé comme ça et puis on nous change notre couche comme ça en pleine nuit et parfois de manière violente, comme on a pu le constater.
Autre problème, le manque de personnel, le turnover, comme on dit, pour employer un mot pas très français. Caroline et Catherine viennent faire déjeuner Jean, elles s'aperçoivent qu'il a une nouvelle bosse sur la tête, cacher cette bosse sous un chapeau. Elles appellent l'aide-soignant pour comprendre, mais l'aide-soignant n'était pas au courant, donc il appelle l'infirmier, qui finit par arriver. Vous avez filmé en caméra cachée, mais on a le son.
Il a une bosse sur la tête.
Mais parce que ça, il a ça tout le temps d'habitude.
Alors moi, je ne suis vacataire, je suis là une fois de temps en temps. Ah. Je vais demander un passage médecin pour...
Il y a un médecin là aujourd'hui?
Ah non, le week-end, déjà en semaine, il faut leur courir après. Ah, alors oui. Là, le week-end, même pas comme vous voulez. Alors vraiment... Mais après, il est à la retraite, donc il passe... Mais vous inquiétez pas, je vais faire un bon passage.
Il y a un médecin, même pas le week-end, même pas pour rigoler. Ça fait froid dans le dos quand on entend ça. Combien paye la famille de Jean pour un tel service?
Alors, il paye 3 800 euros. Il payait 3 800 euros par mois. Et en fait, Jean perd 30 kilos et à un moment donné, quelqu'un suggère à Catherine « Mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas une dame de compagnie pour l'aider à manger ?» Parce qu'en fait, Catherine, elle y va toutes les semaines, ses petites filles aussi, mais elles ne peuvent pas y aller tous les jours. Et elles ne peuvent pas être là deux fois par jour au repas. Donc en fait, du coup, elle prend une dame de compagnie et ça lui coûte 400 euros de plus, donc 4 200.
Ça, c'était dans les EHPAD. À domicile, c'est pas forcément mieux. On comprend pourquoi 9 Français sur 10, vous avez cité ce chiffre, veulent finir leur vie chez eux. Mais à la maison, c'est pas forcément mieux, c'est presque pire. Qu'est-ce qui vous fait dire ceci?
Eh ben en fait, les mêmes problématiques se retrouvent au domicile, c'est-à-dire que le manque de personnel, les problèmes par exemple de comment est-ce qu'on mange, est-ce qu'on arrive à manger tout seul, est-ce que on peut changer sa protection ou pas, enfin tout ça c'est les mêmes problématiques. Sauf qu'à la maison, il y a encore moins de passages, c'est encore plus difficile de faire venir les gens. Et ça, c'est une des choses que j'ai apprises, moi, c'est que déjà rien que de faire rentrer la personne jusque dans le domicile, quand on est invalide et qu'on peut pas ouvrir la porte. C'est la première difficulté, c'est comment les gens rentrent. Donc les trousseaux de clés, Émilie, c'est ce qu'elle nous raconte. Donc ça, on a suivi le quotidien d'Alice et de sa petite fille Émilie. Et en fait, Émilie nous explique, déjà, il y a un souci sur les jeux de clés. On a 6 jeux de clés qui tournent, mais quand il y a 18 passages différents, il pourrait y avoir 18 jeux de clés qui tournent pour chez Alice.
Et puis autre problème que vous relevez, à domicile, une absence totale de contrôle, donc des dérives possibles. Bernadette témoigne d'agressions sexuelles qu'elle aurait subies. Bernadette a 72 ans.
Ouais. Et donc ça fait 6 ans qu'elle a des aides à la maison et elle nous raconte son quotidien terrible, des humiliations, comment on la regarde quand elle fait ses besoins sur ses toilettes, enfin elle est aux toilettes et la personne ne sort pas des toilettes pour lui laisser son intimité. En fait, les soignants, je pense qu'ils sont confrontés à une telle pression, il y a un tel manque de temps. Et même de manque de temps pour créer des liens avec les gens, en fait. Parce que du coup, c'est robotisé.
Géraldine Levasseur, vous prenez bien soin de ne pas mettre en accusation les auxiliaires de vie, parce que l'immense majorité d'entre eux sont engagés, courageuses ou courageux, bienveillantes, patients, mais sont débordés ou sous-payés.
Les deux.
Vous n'avez pas jeté tous les bébés avec l'eau du bain?
Mais non, bien sûr que non, parce que c'est des gens qui aiment leur boulot et qui font mal leur boulot malgré eux. Donc, on demande à des gens qu'on ne considère pas de faire un boulot absolument essentiel pour le maintien à domicile de nos anciens. C'est-à-dire que quand on regarde le cas d'Alice, Alice, elle a 6 personnes par semaine, 18 par mois, elle ne peut pas avoir d'intimité. Et donc on a engagé une de nos journalistes, qui s'appelle Clémentine Caillon, à se glisser dans la peau d'une de ses auxiliaires de vie dans 3 territoires de France pour voir la réalité du boulot, c'est-à-dire le nombre de kilomètres qu'elle parcourt chaque jour, les pleins d'essence qu'elle fait à un moment donné où les Français ont quand même du mal à mettre de l'essence dans leur voiture. Et Clémentine raconte un quotidien absolument épouvantable, où elle est sur des stations d'autoroute, des aires de route, en train de manger un sandwich parce qu'elle est dans un temps partiel subi, par exemple. C'est-à-dire qu'elle a une pause au milieu de l'après-midi, elle n'a pas le temps d'entrer chez elle, elle n'a pas d'autres résidents à voir. Elle reste toute seule dans sa voiture à écouter la radio ou à manger un sandwich. Vous voyez, c'est des conditions. On demande des postes essentiels à des gens qu'on ne paye pas et qu'on ne considère pas.
L'horaire peut, la partie la plus difficile, des raisons d'espérer. Il y a des solutions et des alternatives.
Ouais, ouais. Et c'était important pour nous de donner quand même finir le documentaire sur une note d'espoir parce que on n'est pas les seuls à avoir fait ce constat que la situation va pas. Mmh. Et il y a des gens qui essayent de faire bouger les choses. Donc on a montré le cas de la maison de Blandine là-bas. Donc les gens sont c'est entre les pads et le domicile en fait. C'est-à-dire
la maison de Blandine c'est un établissement. Hein. C'est pas la maison de quelqu'un qui s'appelle Blandine.
Non, c'est.
Il faut
c'est,
le dire. Il faut le dire. Ouais. Qui n'a pas vu le sujet.
C'est une marque, c'est une résidence, c'est une formule alternative. Quand on devient dépendant, on peut donc vivre là-bas. On a son domicile, c'est-à-dire que c'est chez nous. Donc on a son petit appartement de 2-3 pièces. Et en parallèle, il y a des pièces communes où des activités sont organisées toute la journée. Et on peut partager donc avec d'autres personnes âgées. Ils ont voulu rester sur un format donc de 25 personnes.
Et c'est le même prix ?
Non, c'est pas le même prix. Ça coûte 1 600 euros. Donc, ouais.
Bah 1 600 euros, c'est moins cher que ce que vous citiez tout à l'heure.
C'est beaucoup moins cher.
Donc c'est mieux et moins cher.
Ouais. Alors après, il faut quand même rappeler que c'est dans des milieux plus ruraux, donc c'est aussi il faut à mettre en comparaison. Mais oui, c'est moins cher, beaucoup moins cher.
Merci beaucoup Laure Herpeux, vous êtes réalisatrice. Merci beaucoup Géraldine Levasseur, vous êtes la productrice de ce doc Défi et scandale de la dépendance à voir sur la plateforme 6play. Merci d'avoir été avec nous en direct après coup de cette diffusion hier soir et ça avait déjà